Radio Orient présente Pluriel. Pluriel, animé par Loïc Barrière.
Et l'invité de Pluriel est Lova Rinel, porte-parole de Pluriel, mouvement fondé par Karim Amelal. Vous êtes également chercheuse associée à la Fondation pour la Recherche Stratégique. Bonsoir.
Bonsoir.
Alors pour commencer, j'aimerais vous interroger sur la situation en Ukraine. Vladimir Poutine a annoncé une mobilisation partielle pour faire face à la contre-offensive du président Zelensky, avec cette menace de recourir à l'arme nucléaire brandie par le président russe. Il faut craindre cette surenchère, cette escalade?
Alors merci de me poser la question, je suis ravie que sur Radio Orient on parle de dissuasion nucléaire parce que c'est le cœur du sujet. Comment comprendre en fait les propos de Vladimir Poutine avec la question de l'arme atomique? Il faut pas oublier qu'au lendemain des premiers bombardements, donc là on revient le 24 ou le 26 février dernier, il avait utilisé les mêmes mots en prévenant tout opposant, donc il s'adressait là aux alliés de l'OTAN, qu'il avait lui l'arme nucléaire. Ça a été sans cesse Vladimir Poutine qui a mis la question nucléaire sur le tapis. On recommence. Là, je crois qu'en fait, on a les propos d'un homme acculé qui maîtrise pas une guerre et qui, je pense, avait voulu jouer sur les opinions publiques des pays démocrates en espérant que les crises énergétiques, les différentes, on va dire, sanctions que lui a subies, mais donc les rétorsions que lui faisait en échange, allaient influer. Ça n'a pas marché. Et il se retrouve tout seul avec sa bombe. Mais il est tout seul puisque sa population, et c'est bien de noter aujourd'hui, est en train de fuir son pays.
Il y a une vague de désertion, ouais, chez les Russes qui ne veulent pas participer à cette guerre.
Eh ben, je pense que ça, c'est le référendum, c'est la réponse à son fameux référendum qu'il a fait il y a quelques jours sur l'annexion des zones occupées. Ça montre qu'il y a une défiance et que la légitimité de Vladimir Poutine en politique intérieure n'est plus celle que nous, d'ailleurs, occidentaux, en fait, on imaginait, on pensait qu'il y avait une adhésion, à minima, une coupure d'information qui faisait que les Russes n'étaient pas vraiment au courant. Bah là, on voit bien que cette guerre, c'est pas la leur. C'est celle d'un président qui auquel en fait il ne se sente pas proche, et l'exode est très important. C'est pas que des manifestations, parce qu'il y a aussi des manifestations qui sont réprimées en ce moment, mais il y a des exodes. Et en fait, si on regarde bien, ce ne sont pas les premiers exodes. Il y en a eu au début de conflit, pour la plupart étant en Turquie. Et je crois que ce qui est intéressant, c'est de voir comment lui va faire face à sa propre opinion publique quand monsieur Vladimir Poutine voulait s'adresser aux opinions publiques de président Macron, du président Biden et de Olaf Scholz.
Dans l'avion présidentiel qui le ramenait de New York, Emmanuel Macron a martelé une nouvelle fois l'importance du retour des négociations dans le cadre de cette guerre. Même si on soutient l'Ukraine, il faut amener Poutine et Zelensky à la table de négociation.
Ah, mais je crois que c'est fondamental. La dissuasion nucléaire est faite pour ça d'ailleurs. C'est amener les gens à discuter quand justement on n'arrive plus à parler. Et c'est le problème qu'on a avec Vladimir Poutine, c'est-à-dire qu'on essaie de négocier. Et à chaque fois qu'on négocie, il augmentait des choses sur le compromis. Et ça ne peut pas marcher en fait. Et vous avez un pays qui est l'Ukraine, qui est quand même souverain, et qui se retrouve en fait au milieu de grands enjeux internationaux avec des questions de sécurité, et on est là sur des questions humanitaires. Et donc la question est de se dire, comment la communauté internationale, alors là c'est clairement l'idée par l'Europe, va pouvoir trouver des solutions de sortie pour la Russie. La question est de savoir, aura-t-on une solution de sortie pour Vladimir Poutine? Parce que la réaction des Russes montre bien qu'il y a maintenant deux blocs différents. Il y a Vladimir Poutine et son pouvoir et ses acolytes d'un côté, et la population russe d'un autre. Comment nos politiques vont interpréter ça? Je pense que bon, c'est en train d'être réfléchi. Il faut être très attentif. Mais pour notre auditoire, je sais que la question de l'emploi d'armes nucléaires est une question. C'est une rhétorique. Nous, les chercheurs, on le voit au quotidien. Plus quelqu'un dit j'y vais, je vais le faire sans l'employer, ben on sait, ça y est, la désescalade est en train de se faire. Il essaie de pousser les gens, donc ses interlocuteurs, à discuter, parce qu'il est complètement acculé et que l'arme atomique, pour lui aussi, ce serait une perte, et personne ne veut en arriver là, même Vladimir Poutine.
Vous l'avez dit, Lova Rinel, l'une des conséquences de cette guerre pour l'Europe et la France, c'est une crise énergétique qui nous rappelle un peu la crise pétrolière des années 70. Le président Macron nous invite à la sobriété. Il a parlé de la fin de l'abondance. Alors, vous êtes proche de la majorité présidentielle. Est-ce que nous sommes bien préparés aux conséquences de cette crise, à la fois la hausse des factures et le risque de pénurie?
Alors, il y a plusieurs questions dans votre question. Est-ce qu'on est bien préparé par rapport à la hausse des factures? Finalement, est-ce que les gens ont les moyens de payer? Et ça, je veux dire, vous avez plusieurs réponses. Il y en a qui sont oui, d'autres non, d'autres n'ont pas envie, d'autres pourquoi passer le jeu. Maintenant, la vraie question, c'est est-ce qu'on est bien préparé politiquement? Moi, je pense que au-delà de la question de la crise ukrainienne, il était temps qu'on pose la question de l'abondance. Ça fait combien de temps que le GIEC, mais ça remonte pas à Emmanuel Macron, ça fait depuis quasiment 40 ans que le GIEC formule des propositions, que les politiques font les sourdes oreilles, et que maintenant, on en revient. Alors, on a démantelé Fessenheim, on va remettre Fessenheim, Fessenheim marche pas, comment on fait? On voit bien le problème du parc nucléaire, parce qu'on est sur cette question-là en France. On voit bien que en Allemagne, c'est autre chose. Donc, il y a aussi des réflexions internationales sur quelle énergie doit-on utiliser. Je crois que c'est une réflexion que nous, Français, on serait légitime à, on va dire, à avoir en premier. Je pense qu'il ne faut pas oublier les autres continents, parce que la planète, elle appartient à tout le monde. Là, je pense à mes, vous connaissez mes engagements sur l'Afrique, je pense au continent africain, qui n'est pas du tout préparé sur le plan énergétique. Je pense au continent sud-américain, asiatique également. Je crois que c'est des sujets. On a une COP27 qui va se faire en Égypte. La question des nouvelles technologies et de l'énergie nucléaire, comme le propose d'ailleurs l'AIEA dans le traité de non-prolifération, de ce qu'on appelle les peaceful uses. Les pays dotés d'armes nucléaires doivent transmettre des technologies d'usage pacifique. C'est l'enjeu des pays membres du P5. On va pas attendre que la Russie le fasse, mais peut-être que la France et les États-Unis, la Grande-Bretagne pourraient avancer. On a d'autres alliés, il y a aussi l'Australie, le Canada, l'Inde et le Japon, qui sont des puissances nucléaires, énergie civile. Je crois qu'il faut vraiment revoir ce qu'on veut, quelle société. Et finalement, dans ce débat politique, au-delà du porte-monnaie, parce que c'est ce qui fait la jauge de l'urgence, c'est quel modèle de développement on veut. Est-ce qu'on reste sur un capitalisme prédateur dont nous sommes les premiers aveugles? Parce que là, on joue vraiment, on fait semblant de découvrir alors qu'on le sait tous. Ou, au contraire, on dit, bon, ben là, il va falloir vraiment mettre la pression en tant que citoyen, moi, en tant que porte-parole du pluriel, d'ailleurs, c'est des sujets qu'on devrait peut-être poser sur la table. Mais c'est vrai que la question de l'abondance, aujourd'hui, elle est urgente, parce qu'il y a des gens qui vont payer une facture d'électricité qui ne seront pas capables d'assumer aujourd'hui. Ça vient trop tard, mais c'est là. Donc maintenant que c'est fait, on ne peut pas revenir en arrière. Qu'est-ce qu'on prépare pour l'avenir?
Et parmi les difficultés, c'est qu'on va demander à des gens de baisser la température à 19 degrés. Mais c'est très compliqué quand vous vivez, par exemple, dans une passoire énergétique.
Tout le monde ne vit pas dans des passoires énergétiques. Je crois que la question, c'est ceux qui peuvent déjà se mettre à 19 degrés, faites-le. Ça, c'est fait. Maintenant, pour les autres, il me semble que la première ministre l'a dit, il faut accompagner. J'ai entendu le directeur général de GRDF qui disait qu'on ne coupe pas le gaz en France, on ne coupe pas l'électricité, donc il n'y aura pas non plus des coupures. On allait quand même les restrictions hivernales, donc je crois que les Français savent qu'on va pas se retrouver avec des gens qui vont grelotter pendant tout l'hiver. Pour autant, c'est des réflexions que tout le corps ministériel doit gérer. Je pense au ministre de la Ville, au ministre de la Transition écologique. Ce sont des questions, les maires. Donc on est vraiment sur une démocratie appliquée qui touche toutes les strates de notre société institutionnelle.
La NUPES avait reproché au président Macron de ne pas tenir compte suffisamment du réchauffement climatique dans son premier mandat. On se rappelle qu'à Marseille, le candidat Emmanuel Macron avait dit que son second mandat serait consacré à la lutte contre le réchauffement climatique. Vous avez le sentiment aujourd'hui que le gouvernement que vous soutenez a totalement pris conscience des enjeux?
Alors, le fait d'avoir Madame Delphine Lermotte qui donne, vous savez, le sommet auprès des ministères sur des formations avec des briefs ministériels sur la question du GIEC, je trouve que ça c'est fort et c'est symbolique. C'était pas le cas avant. Je crois qu'il faut pas oublier qu'on est face aussi à des réalités scientifiques. que en France, en fait, une fois qu'on a passé les incantations, consommez moins, utilisez moins d'électricité, soyez plus verts, en fait, in concreto, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce qu'Emmanuel Macron, il pense quelque chose? Est-ce que le maire, par exemple, un maire de la Courneuve, par exemple, qui est membre de la NUPES, il fait quoi pour l'écologie au quotidien, alors que cette chaîne de commandement est liée? La présidente de la région Île-de-France, elle fait quoi? Je ne dis pas qu'ils ne font rien. Je veux dire que pour la population, à la fin, toujours les personnes individuelles qui payent, et comprendre la répartition des tâches, aujourd'hui, moi, en tant que citoyenne, j'ai du mal à savoir qui fait quoi, comment. Et une fois que moi, c'est simple, admettons, je veux changer justement mon habitat pour être plus écolo. J'appelle qui, en fait? Ça, on n'y est pas. Hein, et... Mais on n'y est pas.
On peut prendre l'exemple du gaz. Beaucoup de Français se demandent si ça vaut encore la peine de se chauffer au gaz, mais effectivement, ils ne savent pas exactement par quoi remplacer le gaz.
Mais oui, et je crois qu'il faut faire preuve de pragmatisme. Avec toute la difficulté, c'est l'urgence, court, moyen, long terme. Et perspective. Et c'est vrai qu'on a une urgence là, parce qu'il y a une guerre, et puis il va nous couper les robinets, enfin c'est déjà fait, donc nous on vit sur des stocks. Et d'ailleurs, on a encore, là, ce qu'on consomme en tant que gaz, c'est encore du gaz russe qu'on a en stock. Donc, vous voyez, c'est pas si évident et si clair que ça. Maintenant, il y a cette urgence à gérer. Je crois que, encore une fois, les gens ne sont pas bêtes. Il y a des gens acculés, dont peut-être la capacité de compréhension est peut-être plus limitée, parce qu'ils en ont marre de payer plus, de payer trop, leur portefeuille est atteint. Mais je crois que quand on met un cap politique, avec des directions claires, et des chaînes, on va dire, de référence, clairement répartis, ben les gens comprennent, en fait, ils disent, ah oui, en fait, le président a dit ça, alors ma région fait ça, mon maire fait ça, et effectivement, les déductions d'impôts vont arriver. Bien souvent, c'est comme ça, on l'a eu pour les panneaux solaires, on l'a eu pour plein de choses, ça va continuer dans ce sens-là. Pour autant, ça prend du temps, donc ce que je pourrais dire aux gens de la NUPES, c'est que changer tout un modèle de développement, ça se fait pas en 5 minutes. C'est vrai que le mandat précédent a été décevant, mais le président a dit qu'il annonçait pour ce mandat-là, et toutes les annonces vont dans la priorité énergétique et environnementale. Donc, on peut pas lui reprocher aujourd'hui de pas être en phase avec ses engagements qu'il a tenus à Marseille lors de la campagne.
Lova Rinel, Emmanuel Macron a annoncé une nouvelle loi sur l'asile et l'immigration l'an prochain. Il souhaite notamment une meilleure répartition géographique des étrangers sur le territoire. Ces étrangers pourraient aller dans les zones rurales qui sont dépeuplées, ce qui a fait hurler le Rassemblement national. Que vous inspire cette proposition?
Alors que le Rassemblement national hurle sur la question de l'immigration dès qu'on parle d'accompagner des personnes étrangères qui arrivent en France, c'est pas étonnant. Moi, je crois que enfin, j'ai habité Saint-Denis, et c'est pas possible pour les Dionysiens, en fait. Déjà, c'est pas possible parce que quand on a tous ces migrants qui sont là, humainement, c'est insupportable. On ne sait même pas comment les aider. On voit des gens errer. Enfin, vous prenez le périph' à la sortie, à Porte de Chapelle, on se dit mais est-ce que moi, je me sens en face dans mon pays, avoir des jeunes, des moins jeunes, à vivre là sous le périph', c'est insupportable. Donc ça veut dire, la première question que moi je me pose en tant que citoyenne, c'est mais pourquoi ils sont là en fait? Enfin là, dans le sens, sur ce point-là, il n'y a pas d'autres endroits ailleurs en France où on peut les accueillir. Ben, ça montre que non. J'étais la première surprise et je me dis, peut-être qu'effectivement dans certains endroits de France, on serait plus... capable d'accueillir. Alors tout est une question, encore une fois, on retombe dans la logique administrative française qui est ce qui nous tue, je crois, sur le plan politique. Mais l'intention est posée, c'est enfin de désenclaver aussi nos migrants qui sont là et qui sont dans des situations invivables. Moi j'en ai honte. Et avoir un peu de lucidité à dire que bon, peut-être Paris, c'est peut-être pas le centre du monde et c'est pas le centre de la France. Il faut désenclaver ça, mais il faut l'accompagner parce que si c'est pour avoir aussi un accueil, on va dire crispé, des habitants ruraux qui découvrent aussi quelque part un peu la question étrangère et immigration par des coups de semonce de l'Élysée, ça va pas le faire. Donc il faut l'accompagner. Je crois que encore une fois, la société civile, des mouvements comme nous, Pluriel, on doit faire preuve de pédagogie. Accompagner aussi les départements, les régions, toutes les personnes concernées. Et puis il y a déjà des maires qui tendent les mains. Hein. C'est pas qu'une aspiration propre du président. Il y a plein de maires qui tendent les mains.
Il y a des maires, par exemple, qui veulent sauver la pérennité de leur école, puisque parfois il y a trop peu d'habitants et donc on ferme des classes. place, l'arrivée de ces étrangers qui ont le droit de résider sur le sol français, ça permettrait
de rééquilibrer en fait cet exode rural. C'est aussi ça. Et je crois qu'une ville sans école, une ville sans habitants est une ville morte. Mais une ville avec trop d'habitants est une ville qui se tue. Et c'est exactement ce qu'on a en région parisienne. Donc je crois qu'il faut, la répartition est pas quelque chose qui me choque. Au contraire, je pense que ça va peut-être apaiser et réconcilier de lourds idéaux, des imaginaires sur la question migratoire qui est souvent liée à l'invasion, à la fin de la France, mais à des sujets propres au Rassemblement National qui ne sont évidemment pas les miens.
Lova Rinel, l'extrême droite a progressé en Suède, en Italie, les élections ce week-end pourraient porter au pouvoir Giorgia Meloni, qui est l'héritière de Mussolini et qui veut par exemple limiter l'accès à l'IVG, elle a une vision ultra-conservatrice de la famille. Comment les partis républicains peuvent-ils contrer l'attrait que représente l'extrême droite pour une partie des Européens?
Je vais parler en France et je vais l'élargir sur la question européenne parce que c'est pas les mêmes problématiques qu'on a en Hongrie, ce qu'on a en Suède, ce qu'on a en Italie. C'est, ne répond pas aux mêmes logiques, même si la question de l'extrême droite est bien souvent basée sur la même origine intellectuelle. Pour la France, la petite différence que j'aurais avec mon parti, le parti de la majorité, ben en fait, il faut arrêter d'être flou sur certains sujets. Il faut arrêter de jouer avec le feu sur certains sujets. On a un ministre de l'Intérieur qui interroge. Moi, je m'interroge parfois sur ses déclarations, que je trouve un peu trop extrême droite rapprochée. Pour autant, je sais bien que la question de l'intérieur, en fait, c'est un piège, hein, c'est un ministère où tous les problèmes sont concentrés. Je ne dis pas que c'est facile. Je dis qu'il y a certaines déclarations qui sont bien plus souvent dommageables pour notre majorité que les propos du Rassemblement National, qui ne fait que réagir à ce qu'on fait ou ce qu'on ne fait pas. Donc déjà, moi j'appelle la majorité à être beaucoup plus claire sur plein de sujets. Et notamment, vous avez parlé de l'IVG, ça revient sur les questions des violences faites aux femmes, sur les questions des violences sur les enfants. Moi je vois comme vous hein, ce qui se passe avec la NUPES, on rappelle Adrien Quatennens, Bayou, effectivement ils se retirent de la présidence et la coprésidence de leur mouvement. Je rappelle aussi les bugs et qu'on a eu nous au sein de notre majorité. Si je mets l'affaire Darmanin qui a été jugée, et je ne vais pas revenir dessus, il y a l'affaire Perrin, il y a l'affaire Abad. Elle est où la clarté? Donc comment voulez-vous porter une idéologie si une fois appliquée à vous-même, c'est du deux poids, deux mesures? C'est ça qui renvoie les gens aux extrêmes. C'est du « on en a marre de vous », et puis après l'escalade du rejet est très simple. On leur met des digues, on construit, on vient avec nos tractopelles, on dit on met des passerelles. Et je crois que le sujet c'est arrêtons de tergiverser sur des idées qui sont très claires. Et l'extrême droite sera beaucoup plus détestable dès qu'on aura terminé ce jeu massin.
Merci Lova Rinel. Je rappelle que vous êtes porte-parole de Pluriel, mouvement fondé par Karima Mellal, proche de la majorité. Vous êtes également chercheuse associée à la Fondation pour la Recherche Stratégique. Bonsoir.
Merci.
C'était Pluriel, une émission hebdomadaire présentée par Loïc Barrière.